L'évangile pour le couple. L'évangile pour le couple. Présenté par Alex et Maud Loriot-Prévost.
Bonjour à tous, bienvenue.
Bonjour à tous.
Nous continuons notre parcours avec l'évangile, les évangiles pour le couple. Et aujourd'hui, nous allons aborder un évangile qui est connu. C'est l'évangile de l'enfant prodigue.
Oui, alors nous allons d'abord resituer un peu le contexte, parce que le texte est assez long.
Donc, vous vous souvenez que cet homme, pour la plupart d'entre vous, vous le connaissez, cet évangile. On resitue rapidement, cet homme avait deux fils. Et donc, il y a un des fils qui, à un moment, demande sa part de fortune à son père. Et il demande sa part d'héritage. Et il veut partir dans un pays lointain, où il dissipe son bien et il vit dans l'inconduite, comme dit l'évangile. Reprenons le texte, Maud. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Quand il eut tout dépensé, une famine sévère survint dans cette contrée et il commença à sentir la privation. Il alla se mettre au service d'un habitant de cette contrée qui l'envoya dans les champs garder des cochons. Il aurait bien voulu se remplir le ventre des caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Rentrant alors en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires de mon père ont du pain en surabondance, et moi je suis ici à périr de faim. Je veux partir, aller vers mon père, et lui dire « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Il partit donc et s'en alla vers son père. Tandis qu'il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. Le fils alors lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Vite, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. » Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé.
Voilà cet évangile magnifique du retournement de l'enfant prodigue qui revient vraiment d'une manière très humble, aimante auprès de son père, et son père l'accueille avec tant de tendresse. Et bah là aussi, on va faire une transposition, que cet enfant prodigue, que ce soit aussi un couple prodigue. Essayons de relire cet évangile au regard de la vie conjugale. Et effectivement, comme le disait d'ailleurs le pape Jean-Paul II à Toronto en 2002, le monde contemporain est très très séduisant. Et effectivement, on comprend très bien que beaucoup de personnes, de couples, aujourd'hui, même si jamais ils sont de tradition chrétienne, catholique, etc., à un moment ont demandé leur héritage et leur liberté à leurs parents, à leur famille, à leur histoire, et ont, entre guillemets, fait le solde de tout compte vis-à-vis de la foi chrétienne, et sont partis s'éclater dans une vie conjugale, personnelle, sexuelle, faite simplement de plaisir, etc. Et effectivement, à des moments, on peut se dire, mais comment, effectivement, tellement, on est tous à plus ou moins à tomber dans ces panneaux, mais combien, effectivement, la vie moderne et la vie contemporaine nous propose des mirages, mais quand on prend un peu de recul, vraiment complètement creux, et effectivement, alimente nos plaisirs, mais de manière tellement, tellement futile, et finalement très, très creuse, ne remplissent pas du tout notre vie. C'est beaucoup de promesses de pacotille que nous avons troqué le trésor de la foi chrétienne et de la vie conjugale dans le Christ et dans l'Église et selon ses desseins pour une vie familiale conjugale avec des promesses et des fonctionnements de pacotille qui où on va tout droit dans le panneau.
« Disons qu'on a aussi laissé l'espace de nos responsabilités familiales être envahi par tout ce que la société nous propose. Les objectifs des familles, c'est de construire une maison, c'est d'aller en vacances, c'est d'avoir des loisirs, c'est de profiter du cinéma, c'est d'aller faire des voyages. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont promises, offertes, accessibles, même si pour beaucoup d'entre nous, ce sont des rêves lointains parce que financièrement ou socialement, elles n'en sont pas du tout capable d'aller faire des voyages ou des choses comme ça. C'est quand même la proposition, ça devient un objectif. Combien de familles se construisent avec l'idée, ah, on va travailler ensemble jusqu'à ce qu'on arrive à avoir une maison, une machine à laver, un truc, une voiture, un bidule, un chose. On sait bien tout ça. Bien sûr qu'on peut tout justifier comme étant effectivement logique pour une vie de famille responsable, etc. Mais est-ce que c'est vraiment ça l'objectif numéro un de notre vie?
Ça, ce sont, je dirais, les différents étages de la maison, et effectivement, il est utile de construire ces différents étages. Mais où sont les fondations de cette maison? Et pour tant de couples, effectivement, ils construisent de tels projets qui peuvent être légitimes, mais dans quel sens? Dans quel but? Vers quelle perspective? Et très souvent, on se fait mener par le bout du nez dans la vie, par effectivement tous ces différents miroirs et différentes attirances, et finalement on construit sa vie conjugale ou sa vie familiale sur un château de cartes. Et après, effectivement, tant de couples s'étonnent et pleurent, mon couple a explosé, mais ma famille a explosé, etc. Mais sur quoi avais-je construit au démarrage ma vie de couple? Et effectivement, tous ces miroirs aux alouettes qu'a suivi cet enfant prodigue et que suivent effectivement aujourd'hui nombre de couples, on pourrait dire, de prodigues qui n'ont pas voulu voir ou pu voir l'essentiel et construire vraiment leur couple sur le roc. Et à un moment ou à un autre, vient un temps, effectivement, le temps de l'épreuve, où on est finalement tôt ou tard écœuré de tout cela, où finalement on n'est pas satisfait parce que c'est très périphérique à nos soifs et à nos attentes.
Voilà, justement, je pense que c'est important dans la parole de Dieu, la première sensation que ressent ce fils qui est allé dilapider de son bien, c'est la faim. Donc finalement, il prend conscience qu'il a faim. Alors c'est pas très difficile de prendre conscience quand qu'on a faim, parce qu'en général, on a du mal à jeûner longtemps sans en rendre compte de façon, je dirais, cruciale. Mais je pense qu'on peut le transposer aussi dans nos couples. Il y a des moments où on prend conscience qu'on a faim et soif d'amour et que on n'est pas comblé comme on l'avait espéré. Que finalement, on est en train de passer à côté de quelque chose qu'on attendait et qu'on pensait être justement, je dirais, rassasiant pour nos vies et ce qu'on avait attendu de cette vie conjugale. Et subitement, on réalise qu'on a faim.
Alors effectivement, parfois c'est à l'occasion de tel événement, de telle épreuve, etc. où c'est quelque chose au fur et à mesure, on a une certaine lassitude, voire une certaine déprime, et il y a les fruits d'un certain écœurement par rapport à nos futilités, nos petites ou grandes trahisons, on vit plus ou moins loin de l'essentiel, où on manque de goût de vivre, il y a une fatigue, il y a une lassitude de son conjoint. Donc voilà, il y a un certain nombre de fruits qui vient de notre, qui s'expriment dans notre vie. Saint Paul parle des fruits de l'esprit, ou aussi des fruits du péché, des fruits de la chair. Et effectivement, à des moments quand nous sommes habités par l'Esprit Saint, c'est la joie, c'est l'exultation. Mais à des moments quand on est vraiment dans le péché de la chair, dans le sens où on est loin des desseins et loin de cette vie avec le Seigneur, d'habiter avec lui, où effectivement c'est la colère, c'est la tristesse, c'est le manque de paix intérieure, c'est la tension. Donc voilà,
c'est l'angoisse. La peur de l'avenir, la peur du quotidien, la peur de l'autre, enfin, il y a beaucoup de choses qui jaillissent.
Et souvent, donc, cette prise de conscience, c'est là où nous avons, et c'est là où nous voulons vraiment nous attarder un peu, c'est l'instant décisif. C'est l'instant décisif de ce qui se passe chez l'enfant prodigue.
C'est là où justement intervient quelque chose de vraiment important, c'est que quand il se rend compte qu'il est traité finalement, il serait prêt à se mettre au niveau des cochons pour pouvoir se remplir le ventre, tout d'un coup, il réalise que vraiment, il est tombé vraiment très bas, puisque finalement, il se contenterait de la nourriture des cochons pour apaiser sa faim et sa soif. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que finalement, bah, dans nos couples, on arrive à des situations où on est prêt presque à tout pour essayer de trouver un peu d'amour, un peu de tendresse, un peu justement ce qu'on attend au départ. Et il y a cette parole assez mystérieuse que nous allons prendre du temps pour méditer, qui arrive juste là, rentrant alors en lui-même.
Voilà, c'est le cœur de l'expérience chrétienne personnelle, mais aussi de l'expérience chrétienne conjugale. C'est ce basculement intérieur, rentrant en lui-même, acceptant de regarder son cœur, les fruits de son cœur, acceptant avec Jésus. Acceptons de regarder les fruits qui habitent notre cœur, de lire en vérité ce qui habite notre cœur. La foi chrétienne n'est pas quelque chose qui se plaque. La foi chrétienne nous permet de lire les fruits de l'esprit, les fruits de Dieu ou de non-Dieu ou d'absence de Dieu dans notre cœur, dans notre vie personnelle et conjugale.
Si vous vous rappelez, au début de cette série, nous avions parlé de cette question de Dieu dans le jardin d'Éden où il disait à Adam « Où es-tu ?» Et voilà cet homme, cet enfant prodigue, comme il nous est dit, qui est loin de son père, tout d'un coup réalise qu'il est dans une situation dramatique et il accepte de faire cette relecture en lui-même. Mais qu'est-ce que je vis ? Où est-ce que j'en suis ? C'est à cela que nous sommes tous appelés pour que le Seigneur puisse passer dans notre vie. Il faut commencer par se rentrer en soi.
Thank you.
nous continuons notre cheminement en relisant l'évangile de l'enfant prodigue. Au regard de l'expérience conjugale, et nous étions dans ce pivot, cette bascule de cet évangile, qui est le moment où l'enfant prodigue rentrant alors en lui-même. Donc il lit aujourd'hui, il lit à ce moment-là les fruits de sa vie. Et il accepte de regarder la situation en face. Et c'est ça qui est l'expérience, le cœur de l'expérience chrétienne et de l'expérience de la conversion. Sans laquelle nous ne pouvons grandir dans la foi. À un moment, nous devons nous rendre compte du cheminement, des fruits de l'esprit, de ce que nous avons. Nous sommes éloignés du Seigneur, des desseins de Dieu. Et cette lucidité, non pas morale, non pas théorique, mais de ce qui habite profondément notre cœur. C'est ce levier du rentrer en lui-même qui nous permet d'exprimer le souvenir de notre bien-être, de ce à quoi nous sommes appelés, de la joie à laquelle nous sommes appelés. Mais je ne suis pas fait pour vivre une vie de pacotille comme ça. Je suis pas fait pour vivre une vie superficielle. Je suis fait pour vivre une vie intense. Et ça, c'est vrai au niveau de ma personne, mais c'est vrai au niveau de mon couple.
À ce moment-là, il y a cette action de la mémoire qui fait qu'on se souvient des moments où on a vécu quelque chose de beaucoup plus grand. On se souvient des aspirations qu'on avait. Le fils prodigue dit « Combien de mercenaires de mon père ont du pain en surabondance et moi je suis ici à périr de faim. » Il se souvient de la maison de son père.
Ce souvenir n'est pas un souvenir historique. Comme un paradis perdu dans mon enfance, etc. Je suis sûr que les psychiatres ou les psychologues évoqueraient ces éléments-là. Il peut y avoir des éléments, bien sûr, dans le processus intérieur. Mais là, on est dans une mémoire d'ordre théologique, on est dans une mémoire spirituelle. Nous sommes inscrits, c'est inscrit dans nos gènes. Nous sommes à l'image de Dieu en tant que personne. Nous sommes à l'image de Dieu en tant que couple. Nous aspirons profondément à cela, que nous le sachions, que nous ne le sachions pas. Et donc, quand nous ne sommes pas conformes à cette image de Dieu, quand le péché nous y éloigne, quand la vie superficielle nous éloigne de cela, nous avons la mémoire existentielle de cette communion, de cette réalité conjugale, et nous en avons le désir. Alors à un moment, ce désir, quand il n'est pas nommé, quand il n'est pas explicite, alors à ce moment-là, on va le chercher dans X activités de pacotille. La sexualité complètement débridée n'est que l'expression complètement perverti de cette nostalgie, de cette communion intense entre Adam et Ève, qui est inscrit dans le cœur de tout couple qui veut vivre intensément son amour. C'est inscrit en nous. Nous avons cette nostalgie et à un moment, nous sommes invités à rentrer en nous-mêmes pour reconnaître que c'est cette soif que nous avons en nous et que c'est cette soif qui doit nous guider parce que c'est Jésus qui l'a inscrit depuis le début, depuis les origines. Dieu l'a inscrit dans notre vie, dans notre soif.
Et à cette parole que dit l'enfant prodigue, je veux partir, aller vers mon père et lui dire. Il veut, il y a un acte de volonté, un acte, une décision. Je veux retourner voir mon père. Je veux aller chercher ce bonheur auquel je suis promis et que je ne trouve pas. Moi qui suis complètement embarquée dans mon boulot, métro, dodo, les enfants, la famille, ma femme, ma belle-mère, le grand-père, tout ce que j'ai à faire, etc. Ensilée sous toutes les activités d'une famille nombreuse ou peu nombreuse, mais d'un travail qui me prend, de déplacements, de tas de choses qui m'oppressent, je veux, je prends une décision. Je rentre en moi-même, je dis je suis faite pour plus, je voudrais vivre plus et je décide de retourner vers mon père.
Et ça pour nos couples c'est important. On peut avoir l'expérience qu'effectivement on est insatisfait de notre vie conjugale, de la manière dont nous fonctionnons, de notre vie amoureuse qui a été affadie, etc. Bon, et puis on peut rester comme ça. Eh ben, l'enfant prodigue, il n'est pas resté comme ça. Il a fait ce travail de prise de conscience, mais après, c'est toute la dynamique de la foi et de la vie chrétienne, c'est que je veux, je fais, je veux aller vers mon Père, je vais vers mon Père, je me mets en route, je marche, et je lui dis la volonté, le faire, la parole. Voilà. Et c'est en cela que nous engageons le combat, que nous prenons en charge notre vie. Et la foi, c'est pas simplement me laisser guider par l'Esprit Saint, et puis de toute façon, je me fais balloter, par, non, c'est un esprit. Nous avons un esprit libre. Nous sommes des enfants de Dieu. Donc nous sommes des enfants libres, et nous sommes invités à décider. Pareil que pour jeune homme riche, il fallait qu'il décide. Il a pas voulu décider, il est parti, mais il était tout triste. Donc le Seigneur nous invite, après cette prise de conscience de la conversion, il nous invite à nous engager pour que notre vie concrètement change.
Et à ce moment-là, il y a ce passage magnifique où ce qu'on appelle le repentir. C'est-à-dire que le repentir, c'est ce moment où, devant l'amour du Père, la soif que nous avons d'une vie tellement plus grande et plus belle et plus vaste, nous allons prendre conscience de notre misère personnelle, de notre faiblesse. Et c'est ce qu'on appelle le repentir, c'est-à-dire le retournement du cœur. On va se retourner à 180 degrés, on va se réorienter vers Jésus qui se lève à l'Orient, qui est celui qui nous donne toute l'orientation de notre vie. On va se re-axer. Donc il y a une sorte de mouvement intérieur qui va évidemment se manifester par le mouvement extérieur, puisque l'enfant prodigue quitte le pays et marche vers chez son père. Et il y a cette très très belle phrase: « J'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Voilà, nous n'avons aucun mérite. Nous avons simplement essayé de rentrer dans notre vie le mieux que nous pouvions. Nous avons essayé de nous aimer en couple. Et puis, ben voilà, nous ne méritons pas grand-chose, mais nous avons cette soif en nous. Et nous nous tournons vers toi, Père, pour que tu nous donnes, enfin, de répondre à cette aspiration extraordinaire qui nous habite.
Et c'est cela qu'il faut vraiment, Maud, je pense, souligner, pour nous-mêmes et pour chacun de ceux qui nous écoutent, et particulièrement pour les couples, notamment ceux qui sont éprouvés, c'est cette prise de conscience et cet abandon à la miséricorde de Dieu, cette prise de conscience de notre péché, de nos fragilités, de nos incapacités, qui devient libératoire parce que nous accueillons l'amour de Dieu, qui est un amour plein de bonté et qui nous enserre dans les bras, et qui ça qui est libératoire, et que nous avons vraiment besoin d'accueillir cet amour, et c'est en accueillant cet amour que nous pouvons demander pardon. Et c'est cette expérience et de l'amour et du pardon qui devient libératoire pour nous et qui nous fait transformer notre vie. Et c'est pour ça que pour nombre de couples, cette prise de conscience, ce cheminement, parfois va se vivre, peut-être difficile de vivre à la maison avec les enfants, etc. Mais lors d'une retraite, d'une session, tous les deux, on va vraiment, ou d'un voyage, tous les deux, on va vraiment faire cette relecture, et puis vraiment accueillir l'amour de Dieu, accueillir sa miséricorde, et puis voilà, bah oui, pauvrement, de dire, bah voilà, on n'a pas su faire comment il fallait faire, etc. Mais Seigneur, viens nous sauver, viens nous transformer, et c'est là où le Seigneur vraiment bondit de joie de nous accueillir. Et c'est important de dire, c'est pas un jugement que le Seigneur opère, c'est l'exercice du pardon et de la miséricorde.
Alors dans ce moment extraordinaire de la miséricorde, justement, comme tu dis Alex, le couple se jette dans les bras du Père, et il y a cette importance aussi de verbaliser. L'enfant, il dit à son Père: « J'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Il ne dit plus d'ailleurs qu'il faudrait le traiter comme un mercenaire. Il s'arrête là, parce que dans l'amour du Père, il a perçu que c'était surtout se repentir qu'il fallait qu'il ait le courage d'exprimer, d'aller jusqu'au bout pour dire vraiment à Dieu et déposer devant Dieu en verbalisant quel est justement son manque, son besoin, sa souffrance.
C'est pour ça que ces propos, cette expérience, c'est ce que tu dis, Maud, me rappelle ce que nous avons vécu il y a quelques années après une session que nous avions organisée avec un mouvement de spiritualité conjugale, les équipes Notre-Dame, pour ne pas les nommer. Et à ce moment-là, il y avait des couples qui étaient là, qui visitaient cette abbaye et qui voyaient tous ces couples chrétiens qui étaient là. Et à un moment, ils viennent nous voir, tu te rappelles, et ils nous disent: écoutez, nous, on n'a pas la foi. Mais vous semblez rayonnant, de bonheur. Et nous, on a envie de construire vraiment un bonheur conjugal. Et donc, est-ce que vous pouvez nous aider? Nous, on connaît pas, si jamais c'est écrit sur le chemin pour le bonheur conjugal, eh ben, conduisez-nous sur ce chemin-là. Et ça a été le démarrage d'une expérience qui a duré plus d'une dizaine d'années dans tout le sud de la France, où justement nous avons essayé d'accompagner des couples non-croyants ou recommençants pour accueillir cette bonne nouvelle du Christ au cœur de leur vie conjugale. Parce que effectivement, ça avait réveillé, cette joie, ce bonheur conjugal avait réveillé le désir vis-à-vis de couples qui effectivement voyaient tant de couples autour d'eux qui se diraient se séparer malgré tous les efforts qu'ils faisaient. Et le Seigneur vient au cœur de nos vies transformer et libérer nos vies et le bonheur qui est inscrit au cœur de nos vies.
Voilà, c'est pour ça que ça se termine sur cet épisode de la fête où tout le monde festoie, parce que justement tout se vit dans l'action de grâce quand on a réussi à faire ce chemin de conversion que nous avons trouvé dans cette parole aujourd'hui. Voilà, à la semaine prochaine.
The intimate friendship of the Holy Spirit.
May the grace